Nous sommes avec Eric et Nino au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
Ça se passe comment Angoulême? On sait que c'est toujours un peu la course.
Ouais, ça se passe bien, tout va bien.
Qu'est-ce que les gens demandent en dédicace? Est-ce qu'ils demandent un personnage particulier ou est-ce que vous imposez, vous, quelque chose?
Non, je leur demande simplement quel personnage il leur fait envie. Je leur dis sauf Caracol, parce qu'il est trop long à dessiner. Ouais. Voilà, sinon, c'est ça. Non, mais après, voilà, la dédicace, il y a beaucoup de monde en général. Ça prend vite du temps, donc à la fois faut faire plaisir aux gens et puis en même temps pas trop traîner non plus parce qu'il y a les autres qui attendent. Donc je fais un petit portrait d'un personnage.
Au début de la bande dessinée que vous avez scénarisée et dessinée vous-même, il y a une préface qui a été faite donc par l'auteur de La Horde du Contrevent, donc Alain Damasio, qui, je pense, avait pas l'idée que ce soit possible de réaliser une adaptation de son roman en BD et qui vous tire un chapeau, je trouve, de façon remarquable. Ça vous a pris visiblement des années, ce projet-là?
Le temps de réalisation en tant que tel, si je devais ramasser le temps de travail, j'aurais vraiment beaucoup de mal à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que oui, les premiers croquis remontent à 2011, je crois. Donc ça fait longtemps. Ceci dit, j'étais pas à 100% sur La Horde du Contrevent. Donc Alain, effectivement, quand on s'est rencontrés au début, il n'était pas forcément super fan de mon dessin. Donc ça a pris du temps de le convaincre. Mais ce qui était tout à fait justifié, hein, quand il m'en a parlé, c'est tout à fait normal et logique. Et au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître, que j'ai commencé à faire des croquis, en fait, des designs, etc., il était un peu plus convaincu. Et voilà. Et par rapport à la préface, oui, j'ai beaucoup de chance, ouais, d'avoir une si belle préface. Je sais pas s'il pensait pas que c'était adaptable parce que je pense que sinon il m'aurait dit non de façon ferme et définitive tout de suite, mais je pense qu'il avait de gros doutes, ouais. Je pense qu'il avait de gros gros doutes et voilà, oui ça a pas été simple, mais c'est normal, c'est un livre complexe, c'est un voilà, il y a énormément, faut arriver à présenter l'univers, il y a beaucoup de personnages, c'est pas un monde que les gens connaissent, donc il faut arriver à ce qu'on comprenne bien les règles de cet univers qui est nouveau pour les gens qui découvrent. Voilà, il y a l'écriture foisonnante d'Alain qui est très riche, philosophiquement aussi c'est très complexe. Enfin voilà, donc ça faisait beaucoup beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions. En plus moi c'est la première fois que j'écris le scénario de mon bouquin, en fait, c'est la première fois que je fais ça. Donc ouais, il a fallu un peu essuyer les plâtres. Voilà, tout simplement.
C'est quelque chose que vous ne pouviez faire que tout seul?
Non, en fait, au départ, moi j'ai dit à Alain, je vais faire le dessin et le scénario, et il me disait, non, mais attends, déjà le dessin, on va voir, et puis de toute façon, le scénario, tu n'en as jamais fait, donc voilà. Plus tard, il m'a dit, si tu veux, tu peux faire avec un co-scénariste, en fait, tu feras avec quelqu'un. Je fais, d'accord, pourquoi pas. Bon, voilà. Et puis au final, à un moment donné, j'ai eu une proposition de résidence dans ma boîte mail, ce que j'ai très rarement, et du coup, j'ai demandé à Alain si je pouvais présenter le projet d'adaptation de son roman. Pour une résidence d'écriture. Et il m'a dit, ouais, vas-y, fonce. Donc je suis allé. Puis de toute façon, avant, je lui avais dit, mais je vais essayer de l'écrire. De toute façon, après, si c'est pas bon, c'est toi qui as les droits. Donc je pourrais pas le faire sans ton accord. Mais tu peux pas m'empêcher d'essayer. Donc je vais le faire. Et puis on verra bien. Voilà. Et puis voilà, donc du coup, cette résidence a fait que j'ai pu écrire une première version qu'il a lu, et puis ensuite il m'a fait des retours. Effectivement, c'était très très perfectible, donc j'ai retravaillé.
C'est un projet sur lequel, au final, vous êtes bien tout seul.
Oui. Après, je fais lire à mon entourage, je fais lire à Alain, bien sûr, et j'écoute les retours. Mais après, oui, je suis seul aux commandes, oui, c'est sûr.
Quand je dis vous êtes bien tout seul, je veux dire dans le sens où c'est confortable finalement d'être tout seul, parce que justement c'est tellement complexe, justement, déjà le roman, alors sans parler du fait que à chaque personnage qui parle dans le roman, il y a simplement ce qui est son tatouage, c'est comme ça qu'on les identifie, le fait que la pagination, en fait, on a l'impression de commencer par la fin, etc. Finalement, être tout seul, ça vous a donné plus de liberté, parce que s'il y avait un écueil, à la limite, vous pouviez vous jeter la pierre tout seul, et si c'était une prise de risque, au moins vous pouviez dire, c'est bon, j'y vais, parce que j'ai le courage de le faire, sans avoir l'aval de je sais pas combien de personnes.
Disons que c'est comme tout choix qu'on fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, être tout seul, ça me permet une grande liberté, ça me permet de me dire, ça va être mon bouquin, ça sera un projet très personnel, même si c'est une adaptation, que c'est pas moi qui ai écrit le roman. Pour moi, le simple fait de l'avoir choisi, de l'avoir élu, en fait, fait que pour moi, c'est un projet personnel. C'est vraiment un projet de cœur. Donc oui, je suis tout seul et je suis très libre, mais en même temps, je suis vraiment tout seul. Donc si je me plante, c'est toute ma faute. Donc c'est à double tranchant. Ouais, après, non, il y a des moments, c'est pas confortable du tout. Puis à d'autres moments, c'est un pied incroyable. Voilà, c'est les deux. Il faut assumer les deux, en fait, simplement.
C'est très compliqué, en tout cas pour moi, de pouvoir parler de la BD sans parler du roman. Et en même temps, on est bien sur deux médias différents et du coup, deux œuvres, je trouve, différentes. Vous arrivez, vous, à séparer les deux ou il n'y a pas de séparation à faire, en fait, parce que ça coexiste, en quelque sorte?
Bah, moi, ça me fait très très plaisir que vous disiez ça, parce que effectivement, pour moi, encore une fois, même si j'ai pas écrit le roman, moi je considère que cette BD, c'est ma BD. Voilà, mais elle est issue. Je sais ce que je dois à là. Hein. C'est pas du tout de la prétention ni rien. C'est juste que maintenant, c'est mon travail. Enfin, voilà, cette BD, je l'ai dessinée, je l'ai scénarisée. Voilà, encore une fois, pas tout seul non plus, parce que j'ai fait des retours. Je l'ai fait lire à des gens qui m'ont donné leur avis. Donc, on n'est jamais vraiment tout seul. Voilà. Puis moi, je suis assez avide de ça, d'apprendre, de comprendre comment fonctionne l'écriture. Mais pour moi, c'est clairement deux choses différentes. Après, quant à savoir si je m'y perds ou pas, non, je pense pas. Enfin, pour moi, le roman, il a vraiment son existence en tant que tel, et la BD, elle a la sienne. Et d'ailleurs, le fait qu'Alain m'ait poussé à vraiment m'approprier l'univers en me disant, mais tu sais, tu peux pas suivre ligne par ligne, chapitre par chapitre, sinon elle va pas être bien ta BD, il faut vraiment que tu te l'appropries, il faut que tu la rescénarises, il faut que tu la réécrives en fait. Et le fait qu'il m'ait poussé à faire ça, moi je savais pas vraiment ce que c'était qu'une adaptation, donc j'ai découvert aussi en le faisant, et j'ai découvert aussi que ça avait du sens de le faire. Plus je le faisais, plus ça avait du sens en fait. Donc oui, s'il y a une vraie réécriture, et pour moi ce sont deux objets différents, mais d'ailleurs pour ceux qui connaissent le roman et qui connaissent la BD, il y a des différences en fait. Le récit, il y a déjà des écarts. La BD s'éloigne déjà du récit du roman, même si évidemment c'est le même univers et que fondamentalement ça dit la même chose. Mais quoique, est-ce que ça dit vraiment la même chose? J'en sais rien. Parce que le roman dit énormément de choses. Enfin, c'est toute la complexité de la personnalité d'Adamasio. Enfin, j'imagine et j'espère en tout cas que moi, en réalisant la bande dessinée, je dis aussi quelque chose qui m'est propre. Et que, enfin, j'espère de tout cœur quoi, que cette BD elle a sa singularité réelle.
Un groupe aussi soudé, obligé forcément avec Golgoth qui mène tout le monde à la baguette, et puis c'est aussi une question de survie, et en même temps avec des personnalités tellement différentes, ça vous a obligé à faire des choix, on va dire, sur les représentations, compliqués ou pas, parce qu'ils sont tous membres de la Horde, donc ils ont un uniforme, on va dire, et en même temps ils ont des physiques qui sont radicalement différents, rien que par rapport à leur position, etc.
Oui, ça a été une très très grosse partie du travail. C'était à la fois de sentir que c'était un groupe, comme vous dites, uni en fait, qui fait corps. Et en même temps, chaque personnage à l'intérieur de la Horde a vraiment sa particularité propre, sa personnalité propre. Et puis ne serait-ce qu'en termes de dessin, pour moi c'était important que si je dessine un personnage, même s'il est rapidement fait en silhouette, on l'identifie assez rapidement. Et ça c'est pour des nécessités de lecture, c'est bêtement technique quoi, j'ai envie de dire. Voilà, et puis je voulais pas non plus du groupe de super-héros quoi, c'est pas les Avengers, donc voilà, c'est pas une esthétique qui me plaît. Et en plus je trouvais que ça n'avait pas de sens dans ce contexte-là. Donc je pense qu'il y a la couleur qui vient aussi unifier tout ça. C'est d'ailleurs ce que dit un passage très beau du roman où il dit « Nous prenons chaque jour de plus en plus la couleur de ce qui nous traverse ». Et c'est exactement ça. Enfin voilà, ils sont terreux, ils sont sales, ils sont pleins de poussière. Et à la limite, ils ont la couleur du paysage qu'ils sont en train de traverser tellement ils sont pleins de poussière. Et en même temps, moi je voulais que dans leurs vêtements, que leur fonction soit présente. Enfin voilà, donc ça a été vraiment un très très gros travail. La partie de design, je crois que j'ai quasiment mis 6 mois. Rien qu'en faisant que ça. Ouais, non, c'était en amont, c'était vraiment un très gros boulot. Ouais.
Un autre point technique, le choix d'avoir sur les visages ces traits qu'on peut imaginer comme un peu des cicatrices faites par des pierres, etc. Comment vous avez eu cette idée-là? Parce que c'est des traces qui sont pas laides en fait, ça pourrait être une ride également.
Oui, ça donne de la vie au visage, ça montre aussi que ces gens, ils ont pas le visage tout lisse, ils sont sans arrêt à l'extérieur, donc c'est des marins quoi, ils sont burinés, il y a le soleil, il y a le vent, il y a la poussière, et effectivement pour moi ces traces, ces lignes, déjà elle bouge, je me suis pas dit lui il a une trace là, puis une cicatrice là, puis une autre là, parce que bon déjà ce serait l'enfer à faire de case à case, mais en plus ça me permet de rendre vivant en fait le visage avec ces lignes qui bougent, ça les rend plus mobiles, plus vivants, et à l'image de ce dont parle le roman aussi en fait. J'avais vraiment envie j'avais envie qu'on y croit en fait. Moi c'est une préoccupation que j'ai depuis mes toutes premières bandes dessinées, c'est voilà, je fais un récit, c'est jamais que des dessins sur des pages avec des textes écrits dans des bulles. Enfin voilà, ça n'existe absolument pas. C'est plat, c'est pas de la 3D, c'est pas réel du tout, mais j'ai très envie qu'on puisse se dire oui, ça existe, on y croit, c'est réel. Parce qu'en fait, symboliquement, c'est réel, ce qui se passe est réel en fait. Parce que ça se passe dans nos têtes ensuite de lecteurs. Enfin voilà, c'était une façon de les rendre vivants, vraiment.
Vous avez prévu du coup une série en combien de volumes? Parce que le bouquin est énorme. Du coup, comme c'est une adaptation, bah, vous pouvez faire des coupes un peu où vous voulez. En gardant l'essentiel de votre point de vue, vous êtes parti sur combien de volumes?
Là, a priori, il y aura 6 tomes. J'avais pensé qu'il y en aurait 5 au départ, mais en fait, je voulais faire le passage avec la rencontre des Fréoles et la flaque de l'Apsane en un tome, mais en fait, il y a déjà beaucoup trop. Et déjà, le tome 2, je pense qu'il va être assez gros. Donc, voilà, donc le second tome, ça sera les Fréoles. Ensuite, la flaque de l'Apsane. Ensuite, ce sera Alticcio, Norska et la 9e forme. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé. Mais oui, c'est un gros roman, puis il est dense. Puis il y a plein de moments dans les passages où je dis « Ah non, ça je veux le garder, c'est trop beau, ça je veux le garder. » Puis à la fin, on se retrouve avec plein de trucs. On dit « Bon, alors là, j'ai beaucoup de choses, il va falloir couper. » C'est pas évident de faire ces choix-là parce que, ben voilà, moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me plaisent énormément. Et en même temps, il y a des choses qui sont juste présentes à l'état un peu germinal dans le récit que j'ai envie de développer. Et notamment, là, dans le tome 2, moi, il y a quelque chose dont il parle un peu dans le livre, mais assez peu, c'est le rapport des hordiers et des hordières, surtout avec leurs enfants, les enfants qu'elles ont eus, et les enfants qui sont eux-mêmes, même si ensuite ils recroisent leurs parents, et que donc on a ce truc sur les générations. Mais voilà, dans le tome 2, moi, j'ai vraiment envie d'appuyer sur le rapport des femmes avec les enfants, en fait, et quand elles croisent les Fréoles, avec toute la petite marmaille qui tourne autour d'elle, etc. Ce que ça provoque en elle, en fait, de nostalgie, de les sacrifices qu'elles ont dû faire, etc. Donc, j'ai vraiment envie de parler de la maternité dans le tome 2, ce qui n'est pas forcément abordé tel quel dans le roman, mais moi, j'ai envie de développer cet aspect-là, en fait. Comme peut-être, à mon avis, c'est même plus intéressant, en fait, de prendre un peu des chemins de traverse tout en repassant par des points de repère, comme ça, mais en brodant un nouveau motif qui viendrait enrichir, développer l'univers, voilà, plutôt que de rester collé exactement au récit, quoi. Même s'il y a plein d'endroits où je me dis, bon, ça, je vais devoir laisser tomber, mais même si c'est trop beau, bah, c'est dans le roman, voilà, ça existe déjà.
Le roman en grand format chez La Volte était sorti avec une bande-son. Est-ce que vous conseillez pour la lecture de la bande dessinée la même bande-son ou est-ce que vous avez imaginé autre chose?
Non, je me suis pas du tout préoccupé du son. Je l'ai écouté une fois le CD et ça m'a pas marqué plus que ça. Donc il faudrait que je le réécoute. J'ai pas de jugement à porter dessus. Mais en plus, je l'ai écouté en dehors de la lecture du roman. Donc non, moi je l'ai lu en poche. En fait, j'ai pas lu avec l'édition, non, avec le CD. Donc, c'est Alain un jour qui m'a filé les MP3 pour que je les écoute. Voilà.
Vous avez choisi, vous, le scribe pour narrateur principal, en tout cas pour ce premier volume, alors que dans le roman, justement, ils ont un peu tous la parole, même si, enfin, personnage principal, quoique, parce que c'est pas lui qui a le dernier mot toujours, Golgoth est quand même bien présent et tout le monde aussi fait entendre sa voix dans la Horde, même si Golgoth est le leader. Ce choix du scribe, ça s'est fait naturellement, parce que bah, comme c'est le scribe, c'est lui qui lui raconte.
Alors le choix, je me demande dans quelle mesure c'était un choix, mais ça a dû en être un, mais c'était tout à fait inconscient, c'est-à-dire que dès le départ pour moi c'était évident que c'était Sauve le héros, entre guillemets, et puis c'est après en réfléchissant, je me suis dit bah oui, c'est logique pour une raison, voilà, qu'on peut pas dévoiler, pour moi c'est du coup le seul personnage possible, mais aussi surtout parce que c'était celui avec lequel je me sentais le plus en affinité, celui dont j'avais envie de développer la problématique, voilà, de cette question du lien et de la solitude, en fait, comment Sauve existe au sein de la Horde, est-ce qu'il existe en dehors de la Horde, quand les liens se défont, qu'est-ce que ça lui fait, enfin voilà, moi j'avais vraiment envie de parler de ça, en fait, de la question du lien et de la solitude, et donc effectivement j'ai réaxé le récit sur la problématique de Sauve, ce qui fait que j'ai dû rescénariser, puisque du coup j'ai créé un arc dramatique pour Sauve, qui progresse par petits bonds d'album en album, mais qui a un grand dessin entre le début du tome 1 et la fin du tome 6, où voilà, il aura parcouru un long chemin de progression spirituelle, sans pour employer un grand mot, mais voilà, c'est une évolution personnelle, en fait, qui va s'étendre comme ça sur les différents tomes.
Vous avez fait des recherches aussi sur le vent ce que ça fait, comment le représenter, etc., je suppose. Et à partir de ces recherches, on va dire purement scientifiques et terrestres, qu'est-ce que vous en avez fait dans la bande dessinée ? Vous en êtes détaché ou au contraire, vous avez voulu calquer le plus possible à notre réalité ?
Alors encore une fois, moi, une de mes préoccupations, c'est vraiment d'essayer de faire croire à ce qui se passe, même si par moment, évidemment, que, enfin, j'essaie de m'en échapper et d'ouvrir un peu vers quelque chose, parce qu'il y a cette dimension de fantastique entre guillemets, enfin voilà, qui moi me plaît, que j'aime beaucoup. Mais oui, oui, je me suis documenté sur Internet, j'ai regardé comment il y a des vidéos qui traînent où on voit des gens pris dans des rues par des tempêtes incroyables, les types essaient de traverser et d'un coup ils ont des postures, des attitudes et une démarche qui est complètement hallucinante. Et là je me suis dit, ah oui, là il y a des choses. Donc j'ai fait plein de dessins de ces gens en train de marcher, de voir comment ils se débrouillaient avec ça. J'ai regardé du côté des rugbymen aussi, la façon dont ils progressent en pack quand ils s'affrontent comme ça, vous savez, il y a des... Oui, parce qu'ils forment corps, ils font bloc. Et je me disais, quand le pack se soude, pour moi ça m'a tout de suite fait penser à la mêlée en rugby, quoi. Voilà, et j'en ai parlé à Calin, il m'a dit ouais mais c'est ça. Donc voilà, donc je me dis bon bah c'est bon, je m'étais pas planté. Ensuite, du coup j'ai regardé aussi ce que faisait l'érosion sur la roche, comment ça pouvait déformer des végétaux, etc. etc. Mais pour moi je suis peut-être encore un peu trop réaliste dans le tome 1, j'ai vraiment envie d'explorer, d'aller vers des choses un peu plus fantasmagoriques, où on se dise vraiment bah tiens là oui on est ailleurs quoi. Enfin, et essayer de lâcher peut-être un peu plus la bride à l'imagination. Bah c'est un peu la gymnastique en fait. Essayer de faire croire tout en développant un imaginaire, mais tout en restant crédible. Enfin voilà, c'est tout cet équilibre à trouver qui est super intéressant.
Vous disiez que vous aimiez bien donc le personnage de Sov, le scribe, mais sinon, vous auriez quelle place vous dans la Horde ?
Oh, celle-là, je pense.
Ouais, sûr.
Ouais, je suis pas assez fort pour être Golgoth, mais je suis un peu Golgoth aussi, mais. Je suis un peu teigneux, quoi. Voilà, il dit que je suis très teigneux. Mais... non, je sais pas, je saurais pas dire. Enfin, en fait, pour moi, la façon dont je vois les choses, moi, j'ai l'impression que la Horde, c'est une personne, en fait. Okay. Quasiment. Et chaque personnage ne serait jamais qu'un trait de caractère poussé à son extrême. C'est-à-dire, Golgoth serait la détermination et le courage, ce qu'on a tous, plus ou moins courageux, plus ou moins lâche. Ça dépend des moments. Sauf qu'il est dans l'empathie. Alors Golgoth est complètement hermétique à l'empathie, il n'en a pas. Ça n'existe pas les gens comme ça. Enfin, bon, c'est un peu des psychopathes. Voilà, il y a Caracol qui est une espèce de force de création pure, qui se souvient pas, qui arrive pas à se lier aux autres. Enfin, pour qui c'est compliqué, la mémoire c'est compliqué. Enfin voilà, c'est tous presque des caricatures, en fait, des archétypes. Sont poussés à leur extrême, mais moi j'ai l'impression qu'en nous, tout le monde a plus ou moins éteint du Caracol, du Sov, du Golgoth, du Firoz, de ces personnages en fait qu'on aime tant, de l'aéromètre aussi qui est dans cette espèce de quête de connaissance comme ça, de noblesse, de la connaissance très cérébrale qui pourrait représenter la philosophie ou des choses comme ça. Pietro qui est la noblesse même, voilà, avec une espèce de rectitude morale. Qui est pareil, tiré à son comble là, au maximum. Enfin voilà. Et donc pour moi, c'est comme si on avait pris une personne et qu'on l'avait éclaté en fait en prenant un aspect et en faisant un personnage. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Bah, pour moi, quand je vois Alain, des fois je me dis tiens, là c'est Golgoth, là c'est Caracol, là c'est Sov qui est en train de parler. Enfin, c'est comme si je les voyais passer en lui en fait. Bah c'est lui, il parle de lui. Hein. Enfin, j'imagine, je sais pas ce qu'il en penserait, mais voilà.
On vous propose 5 objets et vous pouvez en prendre un parmi les 5. Vous pouvez choisir entre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les chaussures de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau d'Indiana Jones. Vous prenez quoi ?
Ah, ça c'est une colle. J'ai un peu de temps pour réfléchir. Bon, le chapeau d'Indiana Jones, c'est pratique, mais j'ai pas beaucoup de cheveux. Alors, c'est bien. Le violon de Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes, j'aime beaucoup Sherlock Holmes. Les baskets de Marty McFly, bon, j'aime bien Marty McFly, mais les baskets, je m'en fous. Le panier, les provisions, les lunettes. J'ai pas besoin de lunettes. Provisions, ça va. Ouais, je crois que ça serait le chapeau d'Indiana Jones. Bon, moi, j'aime beaucoup Indiana Jones. Hein. C'est un personnage que j'aime énormément. Cette espèce de mélange de scientifiques qui a des lunettes, d'ailleurs, quand il est professeur et qui se change d'un coup pour devenir une espèce d'aventurier. Et que c'est ce mélange de désinvolture et de sérieux. Oui, allez, on part sur le chapeau.
Merci, merci à vous.